Histoire et gastronomie, la chronique de Jean Vito sur Canal Académie.
Alexandre Dumas à table. Alexandre Dumas, écrivain génial et prolifique, est le fils d'un général de la Révolution dont la carrière fut initialement brillante, mais qui tomba en disgrâce auprès de l'empereur pour avoir demandé son retour en France après les massacres du Caire lors de la campagne d'Égypte en 1798. Alexandre Dumas fut élevé à Villers-Cotterêts, dont il garda le souvenir des andouillettes. « Les meilleures andouillettes que j'ai mangées, et je n'en excepte pas les andouillettes de Troyes, sont les andouillettes de Villers-Cotterêts. Le charcutier qui les fabrique se nomme Lémeret et demeure en face de la fontaine. » Ce diable d'homme qui dévora la vie à pleines dents fut un romancier célébrissime de son vivant et qui n'a jamais connu d'éclipse après sa mort. Un auteur de théâtre doué, Kean, La Tour de Nesle, un voyageur infatigable comme en témoigne son roman napolitain Le Coricolo, et un grand gastronome. Comme tout grand gastronome, il était d'une curiosité infatigable, d'une inventivité remarquable, partagé avec ses amis comme le compositeur Rossini des repas pantagruéliques et gastronomiques, et écrivit même à la fin de sa vie un savoureux grand dictionnaire de cuisine. Alexandre Dumas et ses proches nous ont raconté comment lui était venue cette passion dévorante de la gastronomie. Jean Tullard, dans son Alexandre Dumas, nous raconte que sa passion vint de sa mère, qui était la fille d'un maître d'hôtel du duc d'Orléans. Sa cuisinière disait qu'il avait tort de faire des livres et que c'est ce qu'il a perdu. Lui-même répondait « Vous me demandez d'où vient mon goût pour la cuisine ? Comme celui de la poésie, il me vient du ciel. » La cuisine était son violon d'ingre, son rêve, son ambition, comme l'a dit André Castelot dans l'Histoire à table. Mais Alexandre Dumas disait aussi « J'ai étudié sous tous les maîtres, et particulièrement sous ce grand maître que l'on nomme la nécessité. » Il aimait tellement manger qu'il finissait souvent ses repas sur cette sentence « C'est ennuyeux de manger à sa faim, car aussitôt on n'a plus faim. » Le résultat fut un physique rabelaisien, avec une fort belle gidouille comme celle du Père Ubu, d'Alfred Jarry, parfaitement bien rendu par la remarquable statue posthume d'Alexandre Dumas, par le célèbre graveur Gustave Doré, toujours visible place Malesherbes, désormais place du Général Catroux, à Paris. Ce qui lui valut cette pique de Théophile Gautier, l'africanisme de ses passions ne l'empêche pas d'être très dodu, sa taille de tambour major est cause qu'il ne paraît pas aussi gros que ses rivaux. En génie, cependant, il pèse autant qu'eux. Ses dîners étaient fameux. Il essayait de transposer les cuisines orientales et exotiques de ses voyages, comme le kari et le shishlik, bœuf oriental au chou, avec un succès parfois mitigé, et inventer des recettes comme le poulet à la ficelle et le potage aux queues de crevettes. Le poulet à la ficelle est réalisé en suspendant le poulet dont tous les orifices naturels ont été cousus par une ficelle au-dessus du feu, le croupion en l'air. Un jour, Dumas, qui avait invité le poète et gastronome Charles Moncelet à déjeuner, lui servit une sauce de son invention, dont il lui annonça qu'elle devait être la merveille des merveilles. Mais soudain, il s'écria « Enfer et damnation, elle est ratée !» Moncelet lui dit alors doucement « Ta sauce, elle doit être de Maquet. » Auguste Maquet était le nègre, ou plutôt le documentaliste d'Alexandre Dumas, notamment pour les Trois Mousquetaires, avec qui il se fâcha en 1857, à l'origine de procès perdus par Maquet, qui n'eut d'ailleurs aucun succès pour les romans qu'il publia sous son seul nom. Les joutes gastronomiques de Dumas père et de Gioacchino Rossini sont restées fameuses. Aussi gros que Dumas, l'auteur de Barbier de Séville était aussi un gastronome fameux, inventeur de plats toujours connus comme le fameux tourne-d'eau Rossini. Il convoqua un jour Dumas, qui n'aimait pas beaucoup les macaronis, qu'il avait découvert lors de ses voyages en Italie et qu'il appelait « tube de pâte », à venir en déguster chez lui. « Mon cher Dumas, je ne donne pas ma recette, elle est trop précieuse, mais venez manger du macaroni chez moi, et si vous êtes aussi beau qu'astronome qu'on le dit. » Il faut dire que Rossini fourrait ses macaronis avec du foie gras et du parmesan à l'aide d'une petite seringue en argent qui fut vendue très cher aux enchères après sa mort. Dans les romans d'Alexandre Dumas, on retrouve souvent ses passions, bien que son style rapide et incisif ne laisse pas grande place à de longues descriptions, comme quand Balzac décrit longuement les dîners de Lucien de Rubempré dans Les Illusions perdues. Le géant Porthos, le double littéraire de Dumas père, est bien connu pour son appétit proverbial. D'Artagnan et Athos sont plus portés vers le bon vin de Bourgogne, comme en témoigne le saccage de la cave d'un hôtelier d'Amiens et l'ivresse d'Athos qui s'ensuivit. Plus amusant est l'anachronisme des tétragones. Aramis invite un soir D'Artagnan à partager son repas. « Si vous voulez vous contenter de mon repas, il se compose de tétragones cuites et de fruits. » Or, les tétragones sont le seul exemple de légumes originaires de la Nouvelle-Zélande. Les graines ont été collectées lors du premier voyage du capitaine Cook, puis rapportées en Angleterre, où elles ont été cultivées au jardin botanique de Kew, avant d'être connues en France dès 1765. Or, les Trois Mousquetaires se déroulent vers 1630. Le Grand Dictionnaire de cuisine fut publié en 1872 après la mort d'Alexandre Dumas en 1870. C'est la dernière œuvre d'Alexandre Dumas pour laquelle il demanda à plusieurs reprises l'aide d'Adolphe Duglairet, célèbre cuisinier des grands, de James de Rothschild aux têtes couronnées, du tsar Alexandre II au roi de Prusse Guillaume Ier et chef des frères provençaux et du café anglais à Paris. C'est un livre plein d'imagination et de fantaisie, où Alexandre Dumas cite de nombreux plats qu'il n'avait évidemment pu goûter, comme l'autruche, le kangourou ou l'éléphant. Il n'hésite pas à recourir à la fantaisie, comme quand il nous dit que le dindon a été ramené par Jacques Cœur ou par les jésuites de l'Inde, alors que l'oiseau amérindien, originaire du Yucatan. De nombreuses recettes sont peu fiables, tenant plus à l'écritoire qu'à l'expérience des fourneaux. C'est le livre d'un gastronome éperdu et un peu fantasque qui trouve Brillat Savarin trop théorique et qui se place dans la tradition de Carême. Mais il émettait lui-même des doutes humoristiques sur son ouvrage. Ainsi, mon livre, par la science et l'esprit qu'il contient, n'effraiera pas trop les praticiens et méritera peut-être la lecture des hommes sérieux et même des femmes légères dont les doigts ne craindront pas de se fatiguer en soulevant les pages dont quelques-unes tiendront de M. de Maistre et d'autres de Sterne. L'invention savoureuse du nom des plats témoigne de l'imagination sans pareil d'Alexandre Dumas. Hure de sanglier à la Machiavel, homard à la Borgia, on aurait sûrement hésité à le consommer, côtelette de veau du doge de Venise, sans oublier les queues de mouton au soleil. Les appellations modernes des plats ne récuseraient pas le potage de caille en profiterole, mais l'amour du produit est toujours présent, comme quand il qualifie les foies de l'hôte de mets rares et délicats. Je ne peux résister au plaisir de vous donner quelques remarques issues de ce monument. On fait avec la queue du kangourou, très musculeuse et très forte, une soupe qui l'emporte sur toute autre par sa saveur et sa bonté. Ou encore la recette du pied d'éléphant. Prenez un ou plusieurs pieds de jeunes éléphants, enlevez la peau et les os après les avoir fait dégorger pendant 4 heures à l'eau tiède, partagez-les ensuite en 4 morceaux de la longueur et coupez-les en deux, etc. Le plus cocasse est que cette recette aurait pu être utilisée par le restaurateur voisin qui servit de l'éléphant pendant le siège de Paris, les éléphants du jardin d'acclimatation, mais ce serait un anachronisme à la Dumas, car Alexandre était mort en 1870. Que le siège eut lieu en 1871 et que son grand dictionnaire de cuisine ne parut qu'en 1872.